Vivre FM podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès.
Bonjour Jean-Baptiste Bergès.
Bonjour Benjamin.
Votre grand témoin aujourd'hui est assistante sociale.
Et oui, Christine Moret. Elle va nous faire partager son quotidien d'assistante sociale, un métier qu'elle exerce depuis des années avec passion et un métier qui ne s'arrête pas à la fin de la journée lorsqu'elle a quitté le travail. Parce que bien souvent, elle repense toute la soirée, tous ses week-ends à ses passions qui marquent son quotidien. Et d'ailleurs, ces passions, elle a voulu leur rendre hommage dans un superbe ouvrage, ouvrage qui retrace sa carrière professionnelle. Et un livre dans lequel aussi elle aborde des thèmes comme la prise en compte du handicap aujourd'hui en France. On ne va pas s'ennuyer, il y a beaucoup de choses à raconter dans cette émission.
Donc je vous laisse avec Christine Moret jusqu'à 13h sur Vivre FM.
Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Christine Moret, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Vivre FM, vous êtes le grand témoin aujourd'hui jusqu'à 13h et vous allez nous faire partager votre quotidien d'assistante sociale, puisque c'est ce que vous racontez dans ce livre intitulé « Chronique d'une assistante sociale en milieu médico-social », c'est publié aux éditions L'Harmattan, un métier qu'on peut dire que vous exercez avec passion, hein, un métier qui est passion quand même.
Un métier passion, oui, depuis le nombre d'années.
Combien de temps ça fait?
Alors maintenant ça s'allonge un petit peu, mais j'ai tendance à oublier le chiffre parce que je me dis que c'est pas très grave. Hein, mais oui, je suis rentrée dans cet établissement-là, je suis rentrée en 89. Hein, donc ça commence à remonter un petit peu.
Donc on se rend compte dans votre livre que c'est un métier qui prend beaucoup de temps parce que lorsqu'on rentre à la maison, forcément on n'oublie pas ses journées. C'est comme à plein de métiers, mais encore plus sur le métier d'assistante sociale. Vous pensez que les Français ont conscience de ce qu'est ce métier d'assistante sociale?
Non, pas tout à fait. Je pense qu'effectivement, ils n'ont pas tout à fait conscience de ce métier. Hein. Et en plus, qui est quand même un petit peu vulgarisé par les séries télé, les films, etc. Un peu ringardisé, même, je dirais. Hein. Quand on dit, on annonce assistante sociale, ça fait penser à des choses un petit peu... voilà, quoi, la personne qui se déplace tout venant, qui affective beaucoup les choses. Et du coup, je pense pas qu'il réalise complètement la portée d'un métier, surtout tel que le mien, dans un milieu spécialisé, auprès d'un public spécialisé. Et franchement, non, je pense que c'était aussi une de mes motivations, hein, d'écrire cet ouvrage, pour faire connaître aussi ce métier-là spécifique auprès de ce public-là spécifique.
Donc vous travaillez dans un établissement pour enfants ayant un handicap sensoriel, auditif ou visuel. Dans ce livre,
Et troubles du langage, excusez-moi.
Troubles du langage. Vous nous faites partager votre quotidien, mais aussi ce livre, c'est une occasion de rendre hommage aussi à toutes ces personnes, à tous ces patients que vous rencontrez. Et puis c'est aussi l'occasion d'aborder la prise en compte du handicap aujourd'hui en France. Hein, on va revenir tout au long de cette émission sur ces différents sujets. Comment est venue l'idée de ce livre? C'est un projet de longue date? Vous êtes réveillé un matin disant que vous alliez écrire un livre? Comment ça s'est...
Non, j'ai toujours écrit déjà. Hein. C'est quelque chose qui est important. C'est un peu une seconde respiration pour moi. Donc j'ai toujours couché par écrit mes sentiments, ce qui m'animait. Et c'est venu en fait par la première histoire. Parce que toutes ces histoires sont réelles, j'étais effectivement avec deux collègues à l'enterrement d'un jeune homme que nous avions suivi pendant de nombreuses années, et je voyais tous ces amis qui étaient autour de lui, donc qui pleuraient le départ de ce jeune homme parti trop vite. Je les voyais qui avaient tous des gros nez rouges à force de pleurer, et j'ai cette première phrase qui m'est venue avec le sentiment tout de suite derrière qu'il fallait que j'écrive là-dessus, il y avait des choses trop importantes de la vie de ces jeunes gens, jeunes femmes, enfants, hein, puisque c'est beaucoup auprès d'enfants que j'exerce, et qu'il fallait, ça s'est un peu imposé à moi d'une manière spontanée à ce moment-là.
Alors ce livre, il s'intitule « Chronique d'une assistante sociale en milieu médico-social », c'est publié chez L'Harmattan. Vous êtes assistante sociale de formation, titulaire d'un master de sociologie et diplômée d'État en ingénierie sociale. Comment vous en êtes arrivée à faire ce métier? On peut parler un petit peu de votre parcours de vie, c'était une envie de toujours, ça s'est imposé à vous aussi?
Alors là,
comment on devient assistante sociale?
Au risque de faire un peu ringard, oui, c'est une envie de toujours, ce qui est quand même assez rare maintenant.
C'est pas ringard, c'est intéressant. Pourquoi ce métier?
Je pense que j'ai dû rencontrer, du plus loin que je me souvienne, une assistante sociale quand j'étais au collège. Et je sais pas, après, je n'avais que ça en tête. Je voulais faire ce métier-là. J'avais présenté d'autres concours, enseignants, etc. Mais c'est quand même cette idée-là qui s'imposait à moi. Voilà. Et puis j'ai appris après en creusant qu'on pouvait malgré tout faire. Il y avait des tas d'opportunités. Hein, on pouvait. La preuve, c'est que se diversifier à l'intérieur. Hein, il y a des assistantes sociales qui travaillent en entreprise. Il y a beaucoup de sortes et de formes d'exercice de ce métier.
Aujourd'hui, vous travaillez dans le milieu du handicap, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Non, j'ai travaillé ce que j'explique un petit peu en début de parcours. Je trouvais que c'était intéressant pour le livre de pouvoir me situer un petit peu professionnellement. J'ai travaillé au sein d'un conseil général, maintenant on les appelle les conseils départementaux. Hein. Donc pour le département, j'étais dans la fonction publique territoriale et c'est formateur, ça m'a beaucoup apporté pendant 8 années, mais en même temps je ne m'y retrouvais pas. Je l'explique un petit peu, hein, dans cette hiérarchie assez pesante.
Donc c'est un choix d'orienter votre carrière plutôt dans le milieu du handicap et d'intégrer cet établissement.
C'est tout à fait un choix, oui.
Et qu'est-ce que ça a changé du coup là, qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? Là, vous vous retrouvez plus dans ce genre d'établissement?
Tout à fait, parce que j'y serais pas restée depuis si longtemps sinon. C'est un choix qui s'inscrit aussi dans une particularité familiale, puisque j'ai aussi une personne handicapée dans ma famille, très proche. Donc, je pense que c'est un choix sans en être un. C'est un peu un chemin qui m'a menée là, sans que j'en aie vraiment pleinement conscience. Mais c'est un choix quand même, parce que j'ai tout de suite adhéré à cette forme de travail, hein, en équipe, avec une équipe vraiment pluridisciplinaire, hein, multidisciplinaire. Et ça, je trouvais que c'était, j'ai nommé l'équipe, je trouvais que c'était vraiment une partie importante du travail que de pouvoir être dans une équipe, alors que l'assistante sociale de secteur, hein, comme on les appelle communément, sont beaucoup plus isolées, je pense. Même s'il y a une équipe derrière, le travail est quand même plus ingrat, selon moi. Hein.
C'est ce que vous racontez dans le livre, que vous avez été très bien accueilli par l'équipe et que ça a été important aussi pour vous intégrer au sein de cet établissement. J'imagine que le métier d'assistante sociale n'est pas le même lorsqu'on travaille avec des personnes handicapées, des enfants handicapés et des enfants dans handicap.
Pas du tout.
Qu'est-ce que vous avez dû appréhender au départ?
Alors,
vous racontez par exemple l'anecdote d'Alex, un petit garçon qui vous a surpris au départ. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui, Alex?
Et oui, je crois que c'est le premier petit garçon aveugle que j'ai croisé. C'était très, très peu de temps après mon entrée dans l'établissement. Je l'ai croisé. En fait, un enfant aveugle, pour connaître quelqu'un, il doit le toucher, le percevoir de cette façon-là. Et donc, il s'est enfoui, dans mes jupes. Il était tout jeune, hein, il avait 6-7 ans peut-être. Et à essayer de me cerner en me disant « t'es petite, t'es grosse, t'es quoi ?» Bon, à l'époque, j'étais pas particulièrement grosse, mais j'avais des vêtements qui m'enrobaient bien, donc ça m'a permis de me rendre compte aussi de la perception que peut avoir un enfant, les biais qu'il doit prendre, hein, en fonction de son handicap pour appréhender les personnes, l'adulte qui est en face. Donc oui, c'est vrai que je me suis fait surprendre à bien des égards sur mes premières expériences, mais finalement on finit par gommer tout ça et puis ne plus voir que l'enfant derrière, et puis le handicap il passe largement au second plan, hein. C'est ça qui est important.
Alors que nos auditeurs comprennent bien, quel est votre rôle du coup auprès de ces enfants dans cet établissement, vous, Christine Moret?
Alors mon rôle, je tiens à dire que c'est le mien, hein, parce qu'il y a dans la plupart des établissements médico-sociaux, que ce soit pour adultes ou pour... Alors pour adultes, il y a très peu d'assistantes sociales. Pour enfants, on trouve quasiment à chaque fois un poste d'assistante sociale, pas forcément à temps plein d'ailleurs, puisqu'il est, il a tendance à diminuer, hein. Mon rôle, il est un peu celui que l'on fait au fil du temps. C'est pour ça que je ne prétends pas que ce soit le rôle de toutes les assistantes sociales en milieu médico-social. Puis tout dépend aussi des moments, des périodes, hein. À une époque, on était très bercé par ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. Donc, chacun, quel que soit son rôle, sa fonction, donnait un peu de temps à faire autre chose que justement ce que lui suggérait son rôle et sa fonction. Donc, à ce titre-là, j'ai fait des ateliers théâtre, j'ai participé à des séjours. Voilà, ça m'arrive encore. Je mange toutes les semaines avec les enfants, de façon à connaître aussi le public, parce que je pourrais très bien rester dans mon bureau et finalement ne me destiner qu'aux demandes des familles, des collègues. Bon, je trouve que c'est important aussi d'aller à la rencontre des enfants et des collègues.
Pour développer le lien aussi, le lien
oui.
social
pour connaître, pour développer effectivement un lien plus crédible, même auprès des familles, hein, parce que rencontrer une famille, si on ne connaît pas son enfant, c'est l'enfant de la famille, j'entends, hein, ça reste un rôle très administratif. Or, moi, j'ai jamais été une assistante sociale très administrative et j'ai développé plutôt des choses du côté du relationnel. C'est plus de ce côté-là que je le situerais.
D'accord. Donc, on est assistante sociale aussi, on fait face à des situations pas faciles, forcément. Mm-hmm. On va y revenir tout au long de cette émission. Il y a des côtés sombres que vous racontez dans votre livre. On peut parler déjà d'abord des parents. Ils sont souvent culpabilisés de mettre leur enfant dans des établissements comme ça. Il faut gérer aussi leur appréhension, leur...
Tout à fait. Oui, les parents arrivent avec un gros bagage et ce que j'appelle un parcours du combattant, parce que passer par une MDPH, hein, Maison départementale des personnes handicapées, c'est jamais facile et ça sera jamais facile. Et il y a toujours quasiment derrière une culpabilité des parents, hein, même si ils y peuvent rien. Mais la culpabilité, c'est parfois la société qui la crée, hein, le regard de la société sur la famille et l'enfant handicapé. Et si bien que même là où un parent n'aurait pas forcément conçu de culpabilité, parce que la faute a pas de chance, son enfant est né comme ça, par exemple... Du fait qu'on fait peser sur les parents dès le début qu'il va falloir adapter pour lui, qu'il va falloir l'accueillir différemment, que ben à l'école c'est pas facile. Ah oui, vous voulez l'inscrire, oui bien sûr, mais il nous faudrait quasiment une AVS, une auxiliaire de vie scolaire derrière chaque enfant handicapé. Hein, c'est un peu la demande des enseignants. Ce que je veux dire, c'est que voilà, la société engage aussi à cette culpabilité des parents, ce qui est pas facile. Et ça continue tout au long de la vie. Hein. Je trouve que même s'il y a une plus grande, on l'a vu au travers des lois qui sont sorties, entre autres, moi, la loi que je cite, c'est la loi de février 2005, hein, et plus particulièrement l'article 19, la scolarisation des enfants en milieu spécialisé, en milieu ordinaire, pardon, qui devient quasi obligatoire, hein, en opposition avec la scolarisation en milieu spécialisé qui était plutôt habituelle avant. Hein.
Malgré tout ça, malgré les nouvelles lois aussi, l'inclusion a des limites, hein, et même si les mentalités avancent, il reste beaucoup de choses à faire. Restez avec nous, Christine Moret. Dans un instant, on continue de parler de tout ça et de votre livre. Livre qui s'intitule « Chronique d'une assistante sociale en milieu médico-social ». C'est publié aux éditions L'Harmattan. À tout de suite sur Vivre FM.
Vous écoutez Le Grand Témoin.
Défi du quotidien jusqu'à 13h sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Le Grand Témoin aujourd'hui sur Vivre FM avec Christine Moret, assistante sociale, qui vient nous présenter ce livre intitulé « Chronique d'une assistante sociale en milieu médico-social ». C'est publié aux éditions L'Harmattan. Christine, vous nous faites partager votre quotidien d'assistante sociale, un métier méconnu des Français. Grâce à votre livre, on en sait un petit peu plus sur votre quotidien, mais c'est aussi l'occasion de rendre hommage à tous vos patients, à toutes ces personnes que vous côtoyez au quotidien, puisque je rappelle que vous travaillez dans un établissement médico-social avec des enfants handicapés, porteurs de différents handicaps. Vous leur rendez hommage. On peut parler peut-être de Marie. Marie qui est aveugle. Est-ce que vous pouvez nous parler de son histoire et du coup de votre histoire en commun, puisque vous êtes là au quotidien avec elle dans ce centre?
Alors, Marie, c'est une des situations qui m'a particulièrement touchée, dans le sens où, pas de chance, cette petite fille cumule un handicap important, hein, la cécité ou quasi-cécité, avec un handicap social, puisqu'elle, dès le départ, elle a une maman qui est dans la grosse difficulté pour s'occuper d'elle. Donc, voilà, ajouter à cette difficulté de devoir grandir et faire sa vie avec cette cécité, elle se trouve vite confrontée à des placements chez des assistantes familiales et aussi des déplacements, hein, puisque pour venir dans l'établissement, elle doit aussi être accueillie chez une autre assistante familiale qui, cette fois, est professionnelle de l'établissement. Donc, dans cette situation, j'explique combien c'est difficile, hein, de pouvoir prendre en compte toutes les facettes d'une situation un peu complexe où et la maman est défavorisée, la petite fille aussi par voie de conséquence. Et puis, plus on multiplie les intervenants, plus finalement on complexifie encore. J'ai le sentiment qu'on complexifie encore les situations et les moments à vivre avec cette petite fille. Donc, je mets un petit peu en valeur dans ce témoignage-là la participation de l'assistante familiale de notre établissement, professionnelle de l'établissement, qui va développer des tas d'astuces, qui va se montrer extrêmement riche envers cette petite fille pour l'accueillir d'une manière à la fois authentique et à la fois très professionnelle, et qui va l'emmener vraiment assez loin, puisque actuellement elle est sur Paris dans une école et elle continue à faire son chemin, et un bon chemin.
D'accord, donc ça c'est une histoire qui vous a marqué. Et vous, quand on multiplie justement les intervenants et tout ça, vous, quel est votre rôle dans... Alors, plus il y a de personnes, plus c'est compliqué, j'imagine, à gérer la situation.
Alors, oui, puisque mon rôle est aussi de faire le lien avec les services extérieurs. Hein, donc c'est ces services extérieurs que je nomme et voire critique à certains moments. Hein, entre autres, les services d'aide sociale à l'enfance. Donc mon rôle, il est vraiment de faire le lien entre famille, établissement, service extérieur. C'est un gros travail de lien, hein. Avec au milieu toujours le souci de prendre en compte la parole de l'enfant, bien sûr, mais la parole aussi du parent, qui ne doit pas, sous prétexte qu'il est défavorisé, dans une situation compliquée, de cette fange de la population qu'on a plutôt envie d'écarter des décisions, essayer de continuer à prendre en compte cette parole-là, parce que de toute façon, tout parent a quelque chose à dire, et tout parent est un peu expert de son enfant et du handicap de son enfant.
Donc des témoignages, vous en relatez plusieurs dans votre livre, Chronique d'une assistante sociale en milieu médico-social. On découvre aussi des côtés obscurs, comme dans tous les métiers. Forcément, quels sont les côtés un peu troubles de votre métier? Vous avez écrit ce livre aussi pour un petit peu briser les tabous et dire les choses.
Alors les côtés troubles, je ne sais pas si je peux les citer en 2-3 minutes, et puis après ça dépend hein, effectivement de chaque personne, de chaque personnalité, de chaque service, de là où. Mais c'est vrai que ce que je mets peut-être en évidence, c'est que finalement on a un certain pouvoir sur les personnes au travers de notre fonction, et parfois on s'en sert pas bien. Bon, je parle du secret professionnel, je parle quand même dans ce livre, il est beaucoup question de déontologie et d'éthique. Et parfois, on va un petit peu trop loin. Je vais dire un mot qui n'est pas très joli, mais on ne se régale pas, mais il y a quelque chose qui n'est pas toujours très, très joli, et ce n'est pas le cas de la plupart, hein, des professionnels que nous sommes. Mais encore une fois, il faut recevoir les personnes comme on aimerait être reçues, nous. Et avec vraiment quelque chose d'attentif à ce qu'ils sont dans leur globalité, pas voir qu'un petit bout de la lorgnette ou le côté social ou qui ne va pas se débrouiller de ses affaires, qui ne va pas savoir faire, etc. Il faut vraiment, je pense, aller au-delà. Alors ça fait un petit peu moralisateur, hein, ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je pense au fond. De l'authenticité, il en faut, et il faut du respect.
Est-ce que ça veut dire que parfois, le facteur humain est oublié, alors que ce sont des humains dont on parle? Est-ce que parfois il n'y a pas assez d'humanité justement dans le traitement des dossiers?
Alors, si ça dépend de... Effectivement, je pense qu'on va oublier un petit peu ce qu'est l'humain. C'est pas forcément le facteur humain qui est oublié, mais on va oublier qu'il est positif, qu'il a des choses à donner, et on va lui coller des étiquettes. Ça, oui, c'est un peu un des travers qu'on peut avoir en travail social.
Alors, autre témoignage, peut-être autre rencontre qui vous a marqué et que vous racontez dans ce livre, celui de Fanny, 5 ans, qui est une petite fille sourde. Pourquoi celui-là, ce témoignage, pourquoi cette petite fille vous a-t-elle marqué?
Alors, je ne sais pas si je dois tout dévoiler.
Oui, pas.
Mais il m'a marqué parce que ça se termine mal, cette histoire. Et, alors ça, c'est le premier facteur hein, qui est susceptible de m'avoir marqué. Le deuxième facteur, c'est qu'il m'a emmené loin dans le sens où j'étais obligée de m'opposer à ma direction hein, pour continuer à suivre cette petite, ou au moins la maman qui était derrière, parce que la petite, malheureusement, on ne pouvait plus grand-chose pour elle. Mais voilà, il m'a marqué en ce sens, parce que j'ai été obligée de poser un acte, entre guillemets, de rébellion, parce que j'ai pas pris de risque énorme, hein, mais voilà, c'est aussi cette situation-là que je voulais raconter pour dire qu'il y a un moment donné, on est obligé aussi de prendre ses responsabilités en tant qu'humain, bien sûr, en tant que citoyen, et... rentrer dans un travail avec quelqu'un, c'est pas forcément l'arrêter aux portes du bureau voilà, aseptiser la chose. Et moi, je suis une professionnelle, je vais pas plus loin, c'est pas possible. C'est aussi prendre une maman dans ses bras quand elle vient de perdre son enfant, ça c'est sûr.
Et justement, une fois que vous rentrez chez vous et que vous n'êtes plus au travail, mais que ce genre d'histoire, hein, comme la petite Fanny, elle vous suit forcément jusqu'à chez vous, comment vous faites face à ce genre de situation?
Parfois par des insomnies.
Des insomnies, oui.
Parfois, non, mais c'est...
Psychologiquement, ça doit être très prenant.
Oui, c'est prenant, mais je trouve que, bon, avec des petits-enfants, c'est plus difficile, mais avec des enfants qui grandissent, c'est plutôt enrichissant de pouvoir en parler avec eux et de leur ouvrir ainsi les yeux sur des réalités qui existent. Et je trouve, personnellement, ça a plutôt enrichi mes enfants que de les pénaliser. Donc, bon... Quand on le peut, c'est bien aussi de parler de tout ça et d'expliquer justement en quoi ce travail est important et en quoi des enfants différents, on est tous différents, hein, tous les enfants sont différents, mais en quoi c'est important d'accorder de l'attention et puis de s'ouvrir un peu sur un monde pluri, hein, je trouve que c'est important.
Du coup, c'est important d'en parler à vos proches et à votre entourage, parce que certains font créent un segment, un fossé entre leur vie professionnelle et leur vie familiale, mais pour vous
Non, j'ai souvent parlé des situations que j'ai rencontrées, évidemment, pas, en ne nommant pas les personnes, en protégeant l'anonymat toujours, mais j'ai souvent parlé de cela à mon mari, à mes enfants, parce que je trouve que c'est un moyen aussi de faire connaître et de s'ouvrir au monde d'une autre façon.
Et pour vous aussi, je suppose que c'est important d'en parler, de ne pas rester
bien
avec...
Bien sûr, bien sûr.
Un autre témoignage de Marius, peut-être. Un enfant qu'on n'arrive pas à cataloguer, ça arrive.
Oui, c'est ça. Et là, c'est très embêtant, oui.
Quelle est la difficulté, en fait, pour... Quelle a été la difficulté chez lui? Son profil?
Ben, il était là aussi pluri, la difficulté. Hein. Il n'y en avait pas une, il y en avait plusieurs. Dans ce que je raconte, on voit bien comment le milieu familial et ce qui s'y est vécu et ce qui se vit sûrement encore a impacté le cursus scolaire de Marius. Et c'est bien le problème. Hein. Je m'excuse de revenir sur la loi de 2005 qui préconise aussi une logique de parcours. On devrait s'attacher au parcours de chaque personne, de chaque enfant. Et en fin de compte, on voit qu'on retombe très vite dans une logique de filière. Un enfant qui a multi-difficultés dans sa vie et qu'on n'arrive pas à mettre vraiment sur un parcours qui nous paraît cohérent et qui est aussi qui correspond au nombre de places qu'on a ici et là, hein, parce qu'il y a aussi cette difficulté là.
Hein. Donc cette loi, elle a des limites, hein. Ça, c'est ce qu'on c'est votre point de vue que vous écrivez dans ce livre, et vous évoquez vos propres conceptions sur les politiques du handicap aussi.
C'est pas tant la loi qui a des limites, c'est les humains qui ont des limites. Et Il ne suffit pas de décréter quelque chose pour que ce soit accepté. Hein. J'étais il n'y a pas longtemps à une conférence et une personne disait il faut décréter, il faut ensuite organiser les choses. Et je pense que c'est plus là à chaque fois que le bât blesse. Hein. Si les choses ne sont pas organisées derrière, ça va être chaotique, ça va être en fonction des personnes qui accueillent. Un enseignant, une année, va être tout à fait accueillant, va mettre en place ce qu'il faut, sans stress, sans se prendre trop la tête. Et puis l'année suivante, un autre enseignant va paniquer, ne pas savoir quoi faire, et du coup, faire surgir en cascade sur la tête du parent, de l'enfant, son stress, ses angoisses, et ça ne donnera jamais rien de bon.
C'est bien ça, on fait des lois, mais on ne donne pas les moyens après de les faire appliquer, peut-être, ou le suivi.
Alors, il y a des moyens, mais il n'y en a pas suffisamment. Hein. Moi, je le dis et le redis, le handicap, c'est chronophage, c'est coûteux, il faut mettre davantage de moyens, parce que je pourrais vous donner l'exemple d'une petite... c'est tous les jours, hein, des exemples, je peux en avoir 1000, c'est tous les jours que je repère ces choses-là. Une petite pour qui doit lire en braille... aveugle, si on lui donne pas sa machine braille, si elle attend 6 mois avant de l'avoir, c'est comme si on empêchait un enfant de... On lui demandait de lire sans livre. Il y a des aberrations, mais je pense que la réalité dépasserait largement la fiction si on se mettait à tout raconter.
Des aberrations, vous en rencontrez au quotidien. Ce que vous racontez dans ce livre, Chronique d'une assistante sociale en milieu médico-social, c'est publié chez L'Harmattan. Christine Moret reste avec nous dans un instant, la suite de cette émission. Vous êtes le grand témoin sur Vivre FM.
Midi 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Le grand témoin sur Vivre FM aujourd'hui, c'est Christine Moret qui vient nous présenter ce livre intitulé « Chronique d'une assistante sociale en milieu médico-social ». C'est publié chez L'Harmattan, livre dans lequel vous relatez votre quotidien d'assistante sociale, un métier méconnu hein, par les Français. Grâce à vous, aujourd'hui, on le connaît un peu plus. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien, ce métier que vous exercez depuis, bon, on compte plus les années, mais plus de 25 ans, hein, un métier que vous avez choisi, je le rappelle. Au quotidien, qu'est-ce que ça vous apporte ?
Oh, c'est une question difficile. Je ne sais pas, c'est le mien. Donc, au quotidien, en tous les cas, c'est une grande richesse. Hein, à la fois dans la rencontre avec les enfants, les familles, et à la fois dans le travail avec les collègues, parce que il y a vraiment une multiplicité de collègues dans cet établissement qui sont pour beaucoup très compétents, c'est vraiment très intéressant. Donc au quotidien, c'est une ouverture permanente, c'est un questionnement permanent, parce que dans ce livre, je ne prétends pas donner de leçons, mais poser des questions. Hein. La plupart des chapitres se terminent par un point d'interrogation. Donc je pense que ce qui m'apporte au quotidien, c'est de pouvoir continuer à me poser des questions sur la vie, bien sûr, l'enseignement, le travail, comment on emmène les autres collègues avec nous, comment ils nous emmènent avec eux. C'est le questionnement, surtout, je pense, qui est le plus important.
Est-ce qu'on manque d'assistance sociale aujourd'hui en France, ou est-ce que il y a des candidatures chaque année vis-à-vis des jeunes, par exemple?
Alors, c'est un peu... Ça se réduit, c'est comme partout. Hein, c'est un métier qui est touché aussi par la crise, par les réductions de moyens et de budget. Donc oui, je pense qu'on en manque, hein, ça c'est certain. Et je prenais l'exemple, dans les établissements justement médico-sociaux, on a tendance à rogner un peu sur ces postes-là. Je crois qu'on ne doit pas être nombreuses à travailler à temps plein sur un poste d'assistante médico-sociale. Oui, je pense que... Donc c'est... Alors après, ce que je disais aussi, c'est que c'est difficile d'évaluer le... On arrive très facilement à quantifier le négatif, hein, ce qui ne marche pas, mais quelque chose qui a marché, un accompagnement qui a marché, on a des difficultés aussi à l'évaluer. Puis il n'est jamais dû à une personne unique. Hein, moi, je fais partie d'une équipe, le restant de l'équipe est largement aussi important que moi. Donc c'est très difficile d'évaluer tout ça, donc négocier... un surplus de postes, j'imagine que ça doit être difficile aussi.
En tout cas, qu'est-ce que vous direz à des jeunes qui voudraient faire ce métier, justement, et devenir assistant social ?
Conseil. J'ai plein de choses à dire, puisque ma fille l'est.
Ah, vous l'avez transmise, cette passion ?
Oui. Bah, y a bien des générations de médecins ou d'enseignants. Oui, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas des générations d'assistantes sociales. Donc, je pense qu'il n'y a pas à dire forcément des choses. Il y a à montrer un petit peu à être plus dans le quotidien, de montrer ce qui peut se faire, mais moi, je ne ferai jamais une pub spécifique. Je ne saurais pas quoi dire exactement, si ce n'est que c'est toujours passionnant de rencontrer des personnes. Et c'est toujours passionnant de pouvoir être dans une situation d'accompagnement.
Alors, on va revenir sur les différentes histoires et différentes rencontres que vous racontez dans ce livre, un livre intitulé « Chronique d'une assistante sociale en milieu médico-social », publié aux éditions L'Harmattan. Un livre, je le rappelle, ouvert à tout le monde. Hein.
Tout à fait. Ça, je l'ai voulu comme ça, oui.
C'est important de dire que ce n'est pas réservé au corps médical.
Non. Ça, c'est sûr que c'est le tout public peut lire ce livre. Ouais.
Alors, justement, il y a l'histoire de Jamel. Qui est lui handicap visuel et un handicap social aussi. Hein. Mmh. Parce que c'est vrai que souvent, on en parle sur Vivre FM, que le handicap, ça peut être aussi social, ça l'est souvent. Mmh. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Jamel ?
Jamel, il est issu d'une famille un petit peu compliquée. Quand la maman arrive en Touraine, elle s'est séparée de son mari. Elle a quitté la région parisienne d'un mari violent. Et la maman est issue des pays, elle est nord-africaine d'origine, hein, mais elle est arrivée en France il y a quand même fort longtemps. Et en fait, quand l'enfant arrive en établissement, c'est suite à une fuite, hein, finalement. Donc, c'est le handicap social, il est tout de suite là, parce que la maman a peu d'argent, deux enfants, elle est partie comme ça, juste avec son petit bagage. Et très vite, elle se trouve un petit peu démunie pour prendre en charge cet enfant, qui, lui, voudrait bien devenir le chef de famille. Donc, ce monde difficile avec elle réagit un petit peu. Et du coup, il y a des moments où elle est un petit peu perdue aussi et ne sait pas toujours adapter ses attitudes éducatives aux difficultés que lui pose son enfant. Donc, il y a des petits dérapages et se pose la question de comment aider au mieux cette maman. Est-ce qu'il faut la pénaliser en lui disant vous n'êtes pas capable de vous occuper de votre enfant, donc on va peut-être penser à faire un signalement, ce qu'on appelle communément parlant, ou bien est-ce qu'on peut l'aider autrement ? Donc, c'est un peu cette question-là que je développe dans ce chapitre. Comment on peut aussi envisager autrement les choses et pour aider au mieux, parce que l'affection d'une maman, c'est énorme. On peut pas le supprimer. Hein. Donc, il faut travailler autour de cette question-là.
Est-ce qu'avec le facteur handicap, du coup, Christine Moret, c'est encore plus compliqué de gérer des situations dans votre métier d'assistante sociale, justement ?
Oui, c'est plus compliqué parce qu'il y a une espèce de captation parfois par le médical, comme l'enfant a cette difficulté-là propre, ce handicap. La société s'abroge le droit d'un droit de regard, si je puis dire, sur l'enfant, parce que il faudrait presque que le milieu familial soit extraordinaire pour qu'on fiche la paix à cette famille, quoi. Je sais pas si je m'exprime bien, mais il y a vraiment un impact, un droit de regard de la société quand l'enfant a un handicap en plus d'une difficulté familiale.
Christine Moret, reste avec nous dans un instant, tout de suite même, on va donner la parole à nos auditeurs. Ils ont été quelques-uns à vous envoyer des questions. C'est l'heure des questions des internautes. On a une première question de Brigitte qui nous écoute dans le 15e arrondissement de Paris. Elle vous demande si vous avez déjà eu affaire à des enfants autistes et est-ce qu'il est possible de communiquer avec eux. L'autisme, c'est un sujet de société. Est-ce que vous en avez rencontré ?
Alors, c'est vrai qu'à une époque, on avait, quand j'ai commencé à travailler, je l'explique un petit peu dans le livre, il y avait une section pour enfants ayant des troubles autistiques et des enfants psychotiques, donc qui nous arrivaient directement de l'hôpital de jour. Donc, oui, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux. Alors, c'est pas moi qui étais évidemment en première ligne, hein, c'était les éducateurs et éducateurs, etc. Mais Après, c'est difficile de répondre à cette question dans le sens où il y a des tas de formes de...
L'autisme.
Voilà, si on dit très autistique, d'ailleurs, maintenant, plutôt qu'enfant autiste, hein, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a des tas de formes particulières. Donc, je pense pas qu'il y ait des recettes. Hein. Ce que j'ai pu remarquer, moi, des collègues travaillant avec eux, c'est qu'au contraire, ils essaient de développer des tas de moyens de communication, puisque c'est la communication qui est en panne, des tas de moyens de communiquer autrement que par la parole ou par le toucher, si c'est difficile pour eux. Donc, oui.
Autre question d'Élodie de Paris 13e. Elle voulait votre sentiment sur la CESAD. La CESAD, c'est le service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Mmh. Elle vous demande si c'est un progrès. Et en quoi c'est un progrès ?
Alors, j'en parle un petit peu. C'est effectivement les services... Hein, quand on parle de domicile, c'est le domicile scolaire, hein, la plupart du temps. Hein, donc, c'est les services qui interviennent au domicile scolaire de l'enfant et qui sont là pour étayer sa scolarité en milieu ordinaire. Dans des dispositifs collectifs tels que les CLIS, les ULIS actuellement. Donc, mon sentiment, c'est que c'est très bien hein, d'aller vers ces services-là. Par contre, ça a été sujet de mon mémoire, hein, de mon mémoire de recherche. C'est très difficile, malgré tout, d'intervenir en milieu ordinaire. Alors, de moins en moins difficile, parce que les effets de la loi 2015, on est quand même 12 ans après. Donc, ça se fait petit à petit. Mais heureusement qu'ils sont là, heureusement qu'ils existent. Maintenant, c'est pas toujours évident. On demande, je trouve, beaucoup à un enfant. Hein, il est dans sa classe en milieu ordinaire et on lui demande d'avoir des intervenants qui vont venir parfois le stigmatiser, hein, le retirer de sa classe pour avoir un enseignement spécialisé, une rééducation, un soutien psychologique. Et c'est pas facile pour les enfants non plus d'être ainsi retirés. On est pour l'inclusion, on les inclut dans le système scolaire ordinaire et en même temps, on les exclut à chaque fois qu'il y a une prise en charge. C'est une démarche qui est compliquée.
Cette loi 2015, quand même, elle va dans le bon sens ?
2005. Elle va dans le bon sens, bien sûr. Oui. Il fallait absolument la... D'ailleurs, elle a été portée par... elle a vu le jour après une mobilisation des associations de parents. Hein, ces associations de parents qui ont porté littéralement cette loi.
Autre question de Pascal de Paris 17e. Il vous demande comment vous gérez la souffrance des personnes que vous aidez. Est-ce que vous vous protégez de cette souffrance, justement ?
À partir du moment où on voit, ce que je disais tout à l'heure, un enfant comme un enfant et non pas comme un enfant... comme un handicap et derrière un enfant, la souffrance, on ne l'a plus trop. On vit avec, ça fait partie du package. Je ne me protège pas, je ne pense pas que je me protégerai un jour de la souffrance. Il y a des tas de moments où elle me revient dans la tronche, si je puis dire.
Ça fait partie du métier.
Fait partie du métier, tout à fait. Mais il y a d'autres métiers où il y a bien plus de souffrance. Je pense notamment au milieu médical où voir partir régulièrement des enfants en service oncologique. J'ai eu l'occasion d'y aller. C'est extrêmement lourd. Et pourtant, là aussi, je pense que les personnes ont intégré ça à leur métier. Mais je ne pense pas qu'on s'en protégera. Hein. Le jour où on est touché. Puis heureusement, il faut être touché tout le temps. Hein.
Votre livre, Christine Morel, s'intitule « Chronique d'une assistante sociale en milieu médico-social ». C'est publié aux éditions L'Armaton. Je le conseille à vous tous qui nous écoutez chez vous pour comprendre un petit peu mieux ce qu'est le métier d'assistante sociale. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur l'antenne de Vivre FM, Christine.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Vivre FM, podcast.